trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Nous allons faire une émission spéciale Théâtre des 13 vents. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Jean-Marie Besset, bonjour.
Bonjour.
Et Gilbert Desvaux.
Bonjour.
Bonjour. Ça fait quelque temps qu'on ne vous avait pas reçu à cette antenne. Il se passe des choses ces temps-ci au 13 vents. Il y a eu quelques articles que vous avez pu lire dans la presse. Donc Jean-Marie Besset, vous avez été nommé par Frédéric Mitterrand en novembre 2009 à la tête des 13 vents. Oui. Et là, on vient d'apprendre que votre mandat n'est pas renouvelé. C'est un peu une première.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été une annonce très brutale qui m'a été signifiée à la fois par Michel Ourrier, qui est le directeur général de la création artistique. Déjà, vous apprécierez le terme, direction générale de la création artistique. Est-ce que la création artistique ne devrait pas être le fait des artistes et pas d'une direction générale, donc, qui m'a signifié sans plus de raison que cela le 21 mars dernier, qu'il ne souhaitait pas me reconduire pour un deuxième mandat. C'est la première fois que ça se passe.
Oui, généralement, quand on fait un premier mandat, on est reconduit pour un deuxième mandat, parce que c'est un mandat de 3 ans.
Madame Filippetti elle-même a affirmé dans le Figaro début avril qu'elle souhaitait que les directeurs de CDN fassent deux ou trois mandats. Elle a immédiatement ajouté un maximum qui n'est pas un minimum. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire d'ailleurs, parce que soit on souhaite qu'il fasse 3 mandats, soit on ne le souhaite pas, mais est-ce que à ce moment-là, enfin bon, bref, en tout cas, depuis 10 ans, il y a 40 centres dramatiques nationaux en France. Depuis 10 ans, la question s'est posée à peu près 150 fois, vous voyez, d'être renouvelé pour un deuxième ou un troisième mandat, et chaque fois la réponse a été oui. Donc dans mon cas, elle a été non. Donc j'ai été écrasé par une espèce d'immense sentiment d'injustice.
Mais c'est vrai aussi que votre nomination en 2009 avait été assez controversée aussi, si je ne me trompe pas.
Oui, mais depuis, on a fait du travail.
Bien sûr.
Gilbert Desvaux et moi, nous avons fait quand même beaucoup de travail. En 2009, c'était une... Je ne sais pas très bien pourquoi il y avait une bronca, à vrai dire. Mais vous savez, j'ai été très pédagogique. Enfin, vous étiez là, Florent, en 2009... Je suis allé rencontrer mes opposants, leur dire qu'ils ne me connaissaient pas. Mmh. En fait, l'opposition que je suscite est surtout due au fait de gens qui ne me connaissent pas, qui n'ont jamais vu aucune de mes pièces, aucun de nos spectacles, ni jamais lu aucune de mes pièces. Donc, il y a des a priori comme ça.
Le fait aussi d'être un auteur qui soit nommé...
Dans le texte de décentralisation dramatique, c'est quand même le premier intervenant, le premier artiste, la première catégorie d'artistes nommée. C'est-à-dire, on dit bien, les CDN, c'est quand même une spécificité française, je crois, l'idée de mettre un auteur à la tête d'un artiste à la tête d'un théâtre, dans ce réseau des CDN. C'est quand même une idée de Malraux qui a été reprise par le texte de 72, puis ensuite réaffirmée par le texte de 95. Et chaque fois, c'est quand même formidable qu'on confie à cet instrument de théâtre public à un artiste. Donc, un artiste de la scène. Donc, ça peut être en effet un metteur en scène, un auteur, un adaptateur. Mais dans le texte, c'est l'auteur qui est mentionné en premier, vous voyez, même s'il y en a très peu. Voilà.
Moi, je me souviens en 2009, donc, quand vous avez été nommé, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans la polémique. Je me suis dit, bon, ben, on va voir sur pièce, on va voir la programmation et on jugera sur pièce. Donc, vous m'avez vu très souvent au Théâtre des 13 vents. Je crois que depuis 3 ans, j'ai presque tout vu. Hein. Donc, il y a des choses qui m'ont plu, d'autres qui ne m'ont point plu, mais c'est un petit peu normal. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche exactement ?
Ben, rien. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage, vous savez. Non, on ne me reproche rien d'objectif. On ne peut pas nous reprocher ni la gestion. Les comptes sont en ordre. Aucun déficit. Le public reste constant. Il s'est renouvelé, mais bon, ça a un peu changé, mais c'est normal. Les habitudes de fréquentation des théâtres changent, pas seulement au Théâtre des 13 vents, mais partout dans le monde. L'idée d'abonner est une idée qui, je crois, est une idée... peut-être un peu moins urgente aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 50 ans. Je pense qu'on est dans un théâtre qui est où les gens réservent de plus en plus par Internet, se décident au dernier moment. Donc les habitudes changent, quoi, voilà. Mais donc il n'y a rien à nous reprocher ni sur la fréquentation, ni sur les comptes, ni sur la programmation. On nous reproche, semble-t-il, nos créations qui seraient pas dignes de l'esprit du service public du théâtre. Alors là, après, on a entrevoyé dans la guerre des goûts. Alors oui. Là, la guerre des goûts, ça ne veut plus rien dire. Parce que moi, je pense au contraire que le théâtre public est divers, a une diversité, comme d'ailleurs le théâtre privé est divers aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison du père. Je pense que la note qu'on commençait à faire entendre était originale. Et le fait de nous remercier comme ça constituerait une fermeture. Mais les cartes, enfin, le jeu n'est pas encore joué, quoi, je veux dire, puisque comme Madame le ministre refusait de me recevoir et comme on avait convoqué un comité de suivi pour organiser ma succession, je n'ai pas eu d'autre solution que, comme j'étais traité injustement, de faire appel à la justice, justement. Et donc, j'ai lancé une action, j'ai demandé une requête en référé. Suspension de la décision ministérielle auprès du Conseil d'État, qui m'a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier. Et là, avant de faire appel de nouveau de ce jugement au Conseil d'État, de revenir au Conseil d'État,
Donc il y a déjà eu un premier jugement ?
Il y a eu ma requête a été rejetée parce que la condition d'urgence... Enfin, après, c'est très technique, vous savez, en droit, donc c'est un peu compliqué... Le Conseil d'État avait jugé que j'étais un agent public. C'était la cessation d'activité d'un agent public. Le tribunal de Montpellier n'a pas voulu tenir compte de cette idée du Conseil d'État. Il y a un flou juridique sur les directeurs de CDN. C'est un peu compliqué. On a le statut de gérant d'une SARL. Enfin, l'État est en train de sortir de tout ça. Enfin bon, moi, j'ai proposé au ministère actuellement, au stade où on en est, une négociation, une sortie honorable de cette crise. J'ai proposé qu'on nous laisse un an de plus à Montpellier, c'est-à-dire jusqu'en décembre 14. En échange de quoi, moi, je retirerai toute action en justice. Et je trouve que ce serait une solution, la moins injuste possible, puisque ça permettrait quand même d'avoir tenu 5 ans, de programmer 5 saisons. Ça commence à ressembler à quelque chose.
Alors concrètement, pour nos auditeurs, quand on fait donc un référé comme ça, ça arrête toute la procédure de nomination d'un nouveau directeur ?
Oui, c'est-à-dire ça l'arrête de fait, puisque c'est normalement au directeur... C'est un peu compliqué ce système, parce que c'est normalement au directeur du théâtre d'organiser sa succession. Mais c'est curieux, parce qu'un gérant d'une SARL qui organise sa succession, ça se fait tous les jours, sauf que c'est lui qui décide après. Mmh. Là, ce n'est pas moi qui ai la décision, puisque ce sont les tutelles. Je ne suis pas dans le jury qui va décider de mon successeur. Donc,
comment ça marche, une nomination ? Qui est-ce qui décide ? Quels sont les intervenants ?
Il y a deux choses. Il y a d'une part le ministre de la Culture qui vous confie une mission de décentralisation dramatique. Ça, c'est la décision qui est intervenue. Qu'a pris Frédéric Mitterrand en novembre 2009. Et ensuite, pour mener à bien cette mission de décentralisation dramatique, vous signez un contrat de décentralisation dramatique qui vous donne le statut. Et moi, j'ai été très surpris et étonné de découvrir que ce contrat avait la forme de me conférer le titre de gérant d'une SARL. Donc j'ai racheté les parts à mon prédécesseur.
Vous avez racheté les parts à votre prédécesseur. Ouais. C'est un peu compliqué pour nous
de s'y retrouver. C'est pour ça qu'il y a...
Ça n'existe nulle part ailleurs, ce statut.
C'est une façon pour l'État de ne pas instaurer des délégations de services publics, c'est-à-dire de ne pas multiplier les fonctionnaires, en fait. C'est une façon, si vous voulez, de ce statut de SARL. Sauf que depuis quelques années, la Cour européenne s'en est avisée, s'en est inquiétée. Le Sénat français s'en est inquiété aussi. Donc ce statut de SARL pour les CDN n'est plus tenable. Donc ils veulent passer à des EPCC.
Mais il faut aussi dire que ça a des avantages. Oui. Parce que ça permet d'avoir des unités de production indépendantes... encadré par ce contrat de décentralisation. C'est le contrat de décentralisation, il fixe à la fois des objectifs pour le directeur, en termes de fréquentation, en termes de projets artistiques, en termes d'activité, en termes d'action pédagogique, etc., etc. Et le contrat, il est énorme. Mmh. Et d'ailleurs, c'est bien d'être deux pour arriver à tout faire, parce que si vous voulez être un bon directeur de CDN, il faut être à la fois un immense artiste reconnu internationalement et en même temps un animateur socioculturel qui va dans des lycées parler de son travail, un metteur en scène qui travaille avec des amateurs, un bon gestionnaire, un chef d'entreprise. Enfin, le spectre est très très large et la mission elle est complexe tellement le champ des missions est différent. Voilà. Mais ça, c'est pour ça que souvent les directeurs de CDN sont épaulés par un secrétaire général, un directeur adjoint ou un co-directeur. Voilà.
Et c'est vrai que nous, en tant que spectateurs et auditeurs, on a un peu de mal à s'y retrouver. C'est quoi, par exemple, la différence entre un centre dramatique national et une scène nationale ?
Une scène nationale n'a pas, en principe, vocation de produire des spectacles.
D'accord, et c'est pas dirigé par des artistes.
Et c'est pas dirigé par un artiste, c'est dirigé par un intendant, c'est-à-dire un organisateur de spectacle, un producteur de spectacle.
Et au niveau juridique, ça n'a pas du tout le même statut qu'un centre dramatique national.
Pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
Mais c'est vrai que quand on est du côté des spectateurs, on a parfois un petit peu de mal à s'y retrouver.
Oui, non, mais le CDN, est, par exemple en Languedoc-Roussillon, c'est l'unique CDN, centre dramatique national de la région Languedoc-Roussillon, donc c'est donc le vaisseau amiral du théâtre. Et c'est lui qui donne normalement le là.
Mmh. Voilà. On parlait des impératifs que doit avoir un centre dramatique national. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer sur ces impératifs ?
Ah ben, il y a beaucoup de
missions. Je sais qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de missions.
Ben moi, c'est un projet qui a été retenu. Le projet, c'était de mettre en avant les auteurs francophones vivants. Hein, voilà, c'était l'essentiel du projet, de revisiter des classiques parfois oubliés, de remettre à l'honneur l'art de la comédie, puisque, voilà. Alors, par exemple, une des choses qui nous est reprochée actuellement, c'est d'avoir mis sur pied ce spectacle d'Oscar Wilde.
L'importance d'être sérieux,
qui, en ce moment, remporte un vif succès au Théâtre Montparnasse à Paris. Il aura fait 100 représentations supplémentaires, ce qui est une diffusion exceptionnelle pour le CDN. Mais, par exemple, dans le théâtre public, si vous voulez, on aurait le droit actuellement en France de faire Fédo et la Biche, mais pas Wilde encore. C'est tout à fait...
Pourquoi pas Wilde ?
Ah ben, je ne sais pas pourquoi pas Wilde. Demandez-le aux inspecteurs du ministère de la Culture. Si vous voulez, il y a une espèce d'art officiel, vous voyez, qui s'esquisse. Et moi, c'est vrai que je suis très, très, en ce moment, en conflit avec cet art officiel, avec l'art officiel des inspecteurs du ministère de la Culture. Je ne vois pas les choses du tout de la même façon qu'eux. Peut-être parce que ma formation s'est faite dans les pays anglo-saxons. Moi, j'ai vécu 2 ans à Londres, j'ai vécu 12 ans à New York, et je ne vois pas les choses dans le théâtre public français
parce
de la même
Wilde,
façon.
Wilde, c'est quand même un classique.
C'est un classique, mais si vous regardez bien, il n'est pas joué dans le théâtre public français.
C'est tout un tas de choses qui m'échappent un petit peu. Parce que...
Eh bien oui, mais...
Non, oui, mais c'était pareil pour Fedo il y a 30 ans. Oui, il y a 30 ans, 30-40 ans, Fedo était relégué dans le théâtre privé. Et puis il a suffi que Françon s'y intéresse.
C'est pareil aussi pour Tennessee Williams, autre auteur qu'on a défendu. Et c'est pareil pour Édouard Albi, autre auteur qu'on va défendre en début de saison prochaine.
Je vois que Tito est arrivé. On va faire une petite pause musicale avant de se retrouver. Eh bien, puisqu'on parlait de la grande famille du théâtre, moi j'ai choisi Nancy Sinatra, Bang Bang.
I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang.
till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang, I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.
Et vous êtes toujours sur Divergence FM, le 93.9. Ce qu'on vient d'entendre, c'est Nancy Sinatra, Bang Bang, un extrait de la bande originale du film Kill Bill. Je suis toujours avec Jean-Marie Besset et Gilbert Desvaux, et nous parlons donc du théâtre des 13 vents, de ce qui se
bang
passe.
Bang
Bang. Bang Bang. Ça me semblait convenir assez à la situation.
Oui.
Et donc sur le non-renouvellement de votre mandat à la tête des 13 vents. Et Tito Livio vient de nous rejoindre. Bonjour Tito.
Bonjour.
Bonjour Tito.
Alors, on était en train d'expliquer ce que c'était qu'un CDN, comment ça fonctionnait, comment procédaient les nominations. Donc, ce n'est pas très simple, nous, pour s'y retrouver. On parlait d'Oscar Wilde.
On parlait des missions. Alors, je vous expliquais les missions. Et en fait, à part les missions de création, on a évidemment des missions de diffusion, de diffuser ces spectacles, les productions maison, si vous voulez, qui donnent donc... qui ont donné depuis 3 ans, je trouve, une touche un peu différente, une note un peu différente dans le paysage du théâtre public français à partir de Montpellier, donc en renouvellement. Et puis, comme on est très attentif aux auteurs, on a mis sur pied un comité de lecture d'un genre nouveau qui s'appelle le Grand Oral de la Pile, ou GOP, qui a quand même aussi fait des... Enfin bon, voilà, qui est une innovation importante, je crois, à Montpellier. Ça nous a permis de découvrir notamment Régis de Martin-Donos, un tout jeune auteur qui vient d'avoir 25 ans, mais qui en avait 23 à l'époque où il est arrivé. Et donc, je pense que c'est un nom, Régis de Martin-Donos, avec qui il va falloir compter dans le théâtre français des 10 années qui viennent. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, par ailleurs, on a beaucoup de missions aussi dans les... ce qu'on appelle les publics empêchés. Moi, ça fait 3 ans que je mène un atelier à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. La dernière séance était hier. C'est une chose qui m'a beaucoup... Enfin, moi, beaucoup apporté, mais je crois qu'il apporte pas mal aussi à la prison. D'ailleurs, au point que le directeur de la maison d'arrêt est très, très triste du sort que veut me faire le ministère de la Culture. Et ils ont écrit beaucoup, les détenus aussi, d'ailleurs. Mmh. Et puis, on est aussi présent dans les maisons pour tous, dans les quartiers, auprès des gens qui, finalement, par intimidation, ne font pas la démarche d'aller au théâtre des 13 vents. Hein. C'est un peu intimidant, toujours, la culture. C'est quand même un apanage, souvent, de la bourgeoisie, même de la petite bourgeoisie.
Mais pourtant, le théâtre des 13 vents, c'est un endroit où on se sent bien.
Ah ben bien sûr, ouais, je trouve.
À chaque fois que j'y vais, j'ai un peu l'impression d'aller à la maison.
Je trouve, mais vous savez, pour beaucoup de gens, moi, un de nos titres de gloire depuis ces 3 ans, c'est par exemple d'avoir programmé la pièce de Rayana « À mon âge, je me cache encore pour fumer », parce que c'était la première fois qu'on voyait des femmes du quartier de la Paillade, des femmes parfois voilées, qui sont venues assister à cette pièce. Et c'était plein, et c'était vibrant, d'un public très comme ça... à majorité féminin, à majorité immigrée, et il y avait des you-you à la fin du spectacle, enfin, c'était incroyable. Et c'était Rayana, une pièce qui rassemblait une dizaine de femmes dans un sauna en Algérie, avec à la porte les frères musulmans qui tambourinaient pour assassiner une fille qui avait eu un enfant hors mariage, donc une pièce très très dans l'actualité, dans la politique actuelle. Mais dans une narration très claire et presque simple, voyez, candide, tout à fait le genre de pièce que détestent les inspecteurs du ministère de la Culture. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que c'est tout à fait dans leur esprit, c'est pas ça le théâtre, quoi. Voyez, c'est des gens, je crois, très très intellectuels et très très fatigués qui ne supportent pas des spectacles rassembleurs comme celui-là. Et pour moi, ça a été un des événements dont je suis le plus fier, finalement. Parce qu'on parle beaucoup de théâtre populaire, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est que le théâtre populaire, je veux dire. Moi, j'étais à l'inauguration du TNP à Villeurbanne. Je vous garantis, il n'y avait pas un noir ni un arabe dans la salle. Comment ça se fait? il est où ? Alors, ça veut dire quoi, le théâtre populaire, dans ces conditions ? Il faut quand même que le théâtre public se pose des questions. Pourquoi, à Saint-Denis, il n'y a pas un noir dans la salle ? Vous savez comment on appelle le TGP de Saint-Denis ? À Saint-Denis, la maison des Blancs. Bon, alors, c'est quoi ?
Là, j'ai une information à apporter, parce qu'il y a eu une exception pendant Nordet. Stanislas Nordet, c'est parce vrai. Que moi, j'étais témoin.
Oui, mais c'était il y a quelques années.
Il y a quelques années.
Non, mais je
années.
Vous parle aujourd'hui,
non,
dites
non,
tout.
Mais justement, j'abonde dans votre sens.
Non, on est revenu
que,
à l'arrière, là.
Parce que, et en plus, vous savez très bien tous les problèmes qu'il a eus. Hein,
oui,
parce que les Parisiens n'ont jamais supporté sa façon de gérer le théâtre et de sa politique, notamment tarifaire, parce qu'on y allait pour 25 francs. Ouais. Moyennant quoi, il n'y avait pas de gratuité, il n'y avait pas d'invitation. Et les Parisiens n'ont jamais supporté le fait qu'il n'y avait pas d'invitation, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de rang F pour les huiles. Ils étaient obligés de payer 25 francs comme tout le monde. Et Nordet aussi, il a fait une chose, par exemple, par rapport à cette population, aux populations des quartiers, comme on dit. Il a dit, plutôt que de les faire venir, moi, je vais commencer par y aller.
Mais il a creusé quand même un déficit.
Et ce qui fait qu'après, il y en avait des gens. Mais après, ça s'est perdu. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Lui, parti, fini ces gens-là au théâtre. On a recommencé avec une programmation pour Bobo, parce que c'est la vérité. Moi, j'ai arrêté entre-temps. Heureusement, je suis venu à Montpellier, mais enfin, moi-même, c'est un théâtre que j'aurais abandonné personnellement.
Non, mais Stanislas Nordet est un ami, c'est un camarade, c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est venu plusieurs fois dans nos saisons au Théâtre des 13 Vents, et lui, en tant que gestionnaire, a été, vous savez, il a creusé quand même un déficit. Ce que nous, on a essayé de faire au Théâtre des 13 Vents, c'est sans creuser de déficit, que chacun paie selon ses moyens. C'est ça l'idée. C'est-à-dire, si vous avez les moyens de payer 24 euros, qui est le prix top au Théâtre des 13 Vents, vous payez 24 euros. Et si vous n'avez pas un sou, vous payez 4 euros. Enfin, bon, voilà, c'est-à-dire l'équivalent de ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on n'a pas un taux d'invitation énorme. Donc voilà, je crois qu'on est arrivé à quelque chose comme ça. Mais moi, je parlais plutôt de l'esthétique. Je parlais du choix du choix des textes, du choix des spectacles. Et voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, parce qu'on parlait des missions des CDN. Mmh. Je crois qu'il y a aujourd'hui une grande réflexion à mener. Et si vous voulez, à la direction générale de la création artistique, il y a quelque chose que je trouve actuellement une dérive que je trouve dangereuse, parce que Michel Aurier a dit à Rennes au mois de janvier qu'il fallait sortir de la dictature du taux de fréquentation et que ce qui comptait, ce n'était pas la quantité de public, c'était sa qualité. Alors ça, je trouve quand même...
Ça veut dire quoi ?
Eh bien, je ne sais pas, je vous laisse libre d'interpréter, mais enfin, je trouve, enfin, c'est vraiment, il y aurait des gens qui auraient la qualité pour être spectateurs de théâtre public et d'autres pas. Enfin, c'est très, très, très dangereux parce que c'est en contradiction en plus avec le texte de 72 et celui de 95 qui dit bien dans son article premier, on confie une mission de décentralisation dramatique dans le but de réunir le plus large public possible, notamment de jeunes publics. Donc... Enfin voilà, c'est pas une dictature de taux de fréquentation, mais qu'est-ce que ce serait qu'un théâtre public privé de public, quoi. Enfin voilà.
Ben surtout que refaire ici la Comédie Française, je crois pas qu'il y ait assez de public pour alimenter ça.
Oui oui, enfin bon, donc
on aurait du mal.
Donc il y a quand même en ce moment une réflexion sur le théâtre public qui est menée par ce ministère-là, par le ministère précédent, par le ministère de la Culture en général.
Est-ce que vous pensez que c'est une décision politique, votre éviction ?
En tout cas, Frédéric Mitterrand, lui qui m'a appelé plusieurs fois depuis cette décision, pense que oui. Pense que c'est un règlement de compte à son égard, dont je suis la malheureuse victime. Parce que vous parlez de ma nomination, mais ma nomination, je suis désolé, elle ne peut pas m'être imputée. Ma nomination, elle n'est pas de mon fait. Ce n'est pas moi qui l'ai organisée.
Je l'ai dit ici à cette antenne. Moi, je vous donnais l'opportunité de dire ce que je pense, même si je ne suis absolument pas au courant du dossier. Moi, je pense que la chose n'a pas été bien faite au départ. D'abord, ça m'étonnerait beaucoup que vous soyez pour quelque chose, parce que ce n'est pas vous qui prenez la décision. Déjà, première chose. Deuxième chose, ce n'est pas parce que ça a été mal fait la première fois qu'on doit répéter la même chose.
Et en plus, pardon, mais d'y revenir...
Et puis, troisième chose, si la personne n'a pas démérité, ça ne se fait pas de ne pas la reconduire une deuxième fois. Ça se fait toujours.
Et je voudrais quand même ajouter que ça n'a pas du tout été mal fait, contrairement à ce qui a été dit, puisque, souvenez-vous, il y a eu un premier appel d'offres où il y a eu une première shortlist qui a été annulée par le ministère de la Culture, qui ne voulait pas de Georges Lavaudan à la tête du CDN. Donc, ils ont relancé une procédure, un deuxième appel d'offres. Et moi, j'ai candidaté uniquement dans ce deuxième appel d'offres. Et lors de ce deuxième appel d'offres, il y a eu une shortlist. Et dans cette shortlist...
Et c'était une procédure d'urgence.
Non, c'est à partir du moment où il y a eu la shortlist qu'il y a eu une procédure d'urgence, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'oral. On a juste demandé aux candidats de la shortlist, on était quatre, je crois, à faire un projet en trois pages. Voilà, à faire un projet d'urgence en trois pages. Après, il y a eu un projet, évidemment, quand j'ai été nommé, mais il y a eu juste une lettre, on demandait une lettre aux quatre candidats, voilà. En même temps... franchement, Georges Frêche était d'accord avec Frédéric Mitterrand pour que ce soit moi.
Donc, oui, quel est le rôle de la région exactement
dans, le rôle de la région, il était total. Moi je connais bien comment ça s'est passé, puisque Frédéric Mitterrand me l'a raconté. Il a appelé Georges Frêche et il lui a dit la chose suivante. Georges Frêche, écoutez, franchement, si vous voulez Georges Lavaudan, vous aurez Georges Lavaudan. Mais à votre place, je prendrai Bessé. Voilà. Et Frêche a été intrigué, parce que d'une part, moi j'étais très soutenu par le député-maire de Limoux, dans l'Aude, qui était monsieur Dupré, qui est un des meilleurs amis de Georges Frêche, et qui lui avait dit, Bessé fait un festival de théâtre qui s'appelle Nouveaux auteurs dans la vallée de l'Aude, qui est formidable. Voilà, donc quand Frêche m'a reçu, il m'a dit... D'abord, Mitterrand m'a appelé, ça m'a fait plaisir. Et ensuite, mon copain Dupré m'avait dit « Prends le petit de Limoux ». Alors voilà, il y avait un petit de Limoux, c'était moi. Donc il a pris le petit de Limoux, voilà.
Ça, c'est bien du Frêche, ça, le petit de Limoux.
Je voulais revenir aussi sur une des choses, moi, qui m'a marqué dans la programmation que vous avez faite ces trois dernières années. C'est l'utilisation de la petite salle, qui me semble une excellente idée. On parlait de Stanislas Nordet tout à l'heure. Il y a eu un spectacle, moi, qui m'avait marqué, qui avait ouvert la saison de l'année dernière. C'est la conférence...
Et la petite salle.
C'était la conférence...
De Christophe Pellet.
De Christophe Pellet, ce qui était une programmation courageuse. Parce que c'était quand même un texte qui égratignait quand même pas mal le milieu théâtral établi.
Nous sommes le seul CDN à l'avoir programmé. Et c'était un texte qui, justement, un peu comme la pièce de Lagarce, Les Prétendants, continuait cette idée et pointait les absurdités de ce système du théâtre public français. D'ailleurs, si quand tout ça sera terminé, pour moi, je vous garantis que j'écrirai moi-même une suite à tout ça en écrivant une pièce, comme j'avais fait à l'époque sur le milieu des architectes, ce qui arrive est ce qu'on attend. Là, j'ai vraiment la matière d'écrire aussi une pièce assez drôle. J'ai envie d'écrire une comédie sur le théâtre public français. Voilà, oui.
Jean-Marie Bessé, je sais que vous avez un train à prendre. Est 13h, on va faire une petite pause musicale avant de se retrouver avec Gilbert. Et j'ai choisi Dalida. Dalida parce que j'adore Dalida. parce que notre ami Christopher adore Dalida. Et je pense que vous ne détestez pas Dalida. Merci de nous avoir accompagnés.
C'est la plus grande Dalida. C'est plateau. Je regrette.
Que reste-t-il de nos amours ?
Sans cesse.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.